Bienvenue au Polysécure épisode technique. On continue notre série sur le Red Team. Je suis accompagné de Kim.
Bonjour.
Va bien?
Bien sûr.
Cette fois-ci, nous allons parler des attaques. C'est-à-dire là, jusqu'à présent, on a parlé vraiment de toutes les phases préliminaires. Et là, on est rendu dans le cœur de l'action. C'est-à-dire que du recon qu'on a fait, maintenant, on doit aller chercher la cible qui nous a été convenue avec le client, soit en physique, soit en virtuel. Et les deux aspects ont des éléments très intéressants et très palpitants. Fait que je vais te laisser commencer par le bout qui t'intéresse le plus ou en a quelque chose qui vient en tête le plus rapidement.
À vrai dire, moi, personnellement, celui qui m'intéresse le plus, c'est toujours le côté physique. D'aller interagir avec les humains, c'est là qu'on va avoir le plus de surprises ou personnellement, le plus de stress, parce que tu peux pas décider de dire en plein milieu d'un exercice ou d'une attaque, dire, donne-moi 5 minutes, je vais aller prendre un café pour me relaxer, je te reviens, mais que j'ai les idées claires. C'est comme un gros show d'impro où si tu te lampes dans ton sketch d'impro, la police arrive. Donc, ça a un niveau de stress un peu particulier, tandis que l'autre, c'est Le niveau réseau va être différent dans le sens où chaque commande que tu fais, plus que tu en fais chez le client, plus que la pression augmente. Puis à un moment donné, bien, tu réalises que si tu fais un mauvais move, tout l'exercice est fini. Il va falloir que tu repartes de zéro ou ça va peut-être littéralement canceller l'opération. Mais personnellement, moi, c'est le physique que j'adore de pouvoir bypasser des millions en système de sécurité en passant par la porte en arrière. C'est génial.
Commençons par le volet physique, social, principalement social engineering, mais quand même qui, au-delà de ça, demande quand même un certain nombre de préparations de d'autres aspects aussi qui sont non négligeables. Je pense qu'on parlait dans le podcast, je ne sais pas si on l'a parlé en ligne ou hors ligne, tu dois avoir des lunettes de thermale ou différents éléments qui existent justement pour aider l'équation. Fait que, tu sais, peux-tu nous donner justement quand on commence, puis là, justement, on met le pied dans les lieux pour aller plus loin?
Ouais, ben tu reprends tous les éléments que tu as eu durant ta reconnaissance. Tu as parlé un peu des lunettes thermales, ça, c'est pas mal des dernières techniques qui ont été démontrées, qui étaient faisables, où tu prends une caméra thermale pour regarder les gens qui entrent leur code, puis ça laisse un résidu de chaleur, donc tu es capable de voir dans quel ordre ils ont rentré leur code. Bon. Là, tu as les codes, tu as peut-être des photos de clés, des photos de cartes d'identité. Toi et ton équipe ont passé une semaine ou même voire plus à créer leur petit habit, créer le scénario. Comment tu y rends? Tu as pensé à scénario 1, 2, 3, backup de 1, 2, 3 avec un backup C de 1, 2, 3. T'sais. Puis encore là, il faut que tu te dises que OK, je vais rentrer là, puis il n'y a peut-être absolument rien de ce que j'ai pensé qui va arriver. Je me souviens, il y a une place qu'on a passé une semaine à regarder, pas de garde de sécurité, rien, tout va bien. La journée qu'on arrive, il y a un garde à la porte. Ah, yes!
C'est le chose de l'improvisation au maximum, là.
Oui, puis des fois, ça peut paraître con, tu sais. On n'a pas eu de problème avec la garde, on a fini par faire des jokes avec, puis avoir bien du fun avec lui, mais c'est pas supposé, mais bon, ça n'a pas été un bloquant. Mais le fait quand tu ouvres la porte puis tu vois qu'il y a quelqu'un d'assis là puis qui t'attend avec le sourire, dit OK, mais qu'est-ce que vous venez faire ici? T'es comme ah, c'était pas prévu, ça a tout cassé tes plans dans ta tête. Puis il faut que tu sois prête à réagir à ce côté-là, tu sais.
Ah, absolument. Là. C'est ça, c'est toute la base d'improvisation là, pour en avoir monté quelques-uns il y a déjà quelques années. J'ai jamais réussi à exécuter comme était prévu initialement, là, comme on anticipe. C'est comme se créer un dialogue dans sa tête, puis tu arrives dans la vraie vie, puis finalement, tout ce que tu as pensé, ben, finalement, ne se réalise pas. Fait que c'est de réussir justement à improviser puis à faire des choses comme ça. Mais ça demande quand même un certain... Mais cela étant dit, ça veut dire qu'il ne faut pas négliger la préparation parce que c'est de cette préparation-là va découler ensuite le fait que tu vas quand même... avoir des te retomber sur tes pieds beaucoup plus rapidement dans le cas de situation comme un gardien qui n'était pas supposé être là.
Hein, se préparer, c'est bon. Tu essaies de donner une couple de scénarios. Je crois qu'il faut que tu travailles vraiment sur ta base de contexte. C'est-à-dire, bon, un des scénarios qu'on a fait récemment, c'est on s'est fait passer pour une gang d'exterminateurs. Bon, OK, c'est correct. T'sais, on est exterminateur, qu'est-ce qu'on vient faire? Bon, c'est un examen de routine. Qu'est-ce qu'on doit pas dire? On doit pas dire qu'on doit aller à la salle de serveur. Ça se dit pas, ça. Tu fais pas ça, c'est trop direct. OK. Fait qu'est-ce qu'on veut checker? On s'est trouvé des checklists. OK, bon, on va aller examiner les poubelles. On va essayer d'examiner sous les bureaux, les places de poussière. T'sais. Le but, c'est d'avoir de l'air comme quoi on est là légitimement. Fait qu'essaie de voir c'est quoi qu'un exterminateur ferait, c'est quoi qu'il essaierait de spotter. Trouve-toi des checklists, puis fais la job. Si tu rentres comme un gars de tu sais, un concierge, ben vide les poubelles, nettoie les bureaux, désinfecte. T'sais. Il faut vraiment que tu sois là, parce que les autres employés, s'ils te voient, ils vont se demander t'sais, qu'est-ce que tu fais à, je sais pas, moi, regarder les instincteurs ou d'aller faire quelque chose que t'as pas lié, tu sais.
Ouais, c'est ça, faut pas sortir du personnage. C'est justement, puis c'est un des points très importants d'ailleurs, puis en fait, c'est un peu un rôle d'acteur en quelque sorte. Faut que tu restes dans ton personnage, puis les gens ont l'habilité naturelle de détecter quand tu sors de ton personnage, puis très facilement et très rapidement d'ailleurs. Là.
C'est pour ça que c'est dangereux aussi d'essayer d'exécuter des fois des scénarios que t'es pas très à l'aise. Des fois, tu peux te dire, ah, tu sais, je vais me faire passer pour le gars de l'air climatisé, on va rentrer super facilement, ça va être le fun. Ben, si tu connais absolument rien des systèmes d'air climatisé, t'as de l'air un peu tata s'ils te posent des questions, tu sais. Surtout si tu te mets à chercher c'est où l'air climatisé, puis tu passes à côté, puis le gars va te regarder croche, c'est fini, là, c'est direct. C'est bon d'avoir des scénarios que t'as fait un peu de recherche et que t'as réussi à avoir de l'information, soit de collègues ou que t'as déjà travaillé dans le domaine. Moi, je pense, exemple, à Devian Olam. Jamais il va essayer de se faire passer pour un gars de la construction. Il connaît absolument rien là-dedans. Mais par contre, se faire passer pour un locksmith ou un gars d'ascenseur, c'est son dada. Mais moi, me faire passer pour un gars d'ascenseur, OK, là, je m'y connais un peu plus récemment, mais... Encore là, je sais pas c'est quoi la checklist qu'ils doivent faire, les mesures de sécurité qu'ils doivent prendre. Je vais peut-être me faire planter si j'essaie de me faire passer pour eux autres. Donc, c'est vraiment plus d'y aller dans un contexte où tu sais ce que tu fais, tu connais vraiment ton truc, puis en plus, ça va t'aider au niveau du stress. Parce que si tu sais de quoi tu parles, c'est, mais que le client se mette à se poser des questions, t'es peut-être en mesure de sweet talk your way through it.
Ouais, ça prend des bonnes capacités à être capable de justement sweet talk, comme tu dis, là, de justement de manœuvrer une conversation pour te sortir du pétrin, puis justement que de réduire les soupçons, parce que tu sais, c'est ça aussi. S'il commence à avoir des soupçons puis il pose des questions, puis on ne réussit pas à les atténuer, on s'en va tranquillement vers une situation beaucoup plus compliquée. Là.
Ouais, mais dès qu'il y a des soupçons, des fois, tu viens qu'à le savoir dans l'attitude des gens. Au début, c'est « Ah, t'sais, on veut juste t'aider. » Là, à un moment donné, tu vois que non, tu repars pas de là tant et si longtemps qu'ils ont pas réussi à t'aider. Puis là, c'est juste « OK, comment que je me sors de là sans créer une alarme ou quoi que ce soit? » On en avait une madame, là, tellement gentille. La madame a tout fait. On a dérangé le building en entier en posant des questions à tout le monde parce qu'on trouvait pas était où la salle des serveurs. Mais elle, quand elle a entendu « Ah, il nous manque juste ça à checker. » Ah ben là, vous allez pas revenir pour ça. Attends, on va trouver quelqu'un. Écoute, on en a dérangé les gens à ce moment-là. Elle s'est mis un moment donné à dire, écoute, je vais trouver quelqu'un. Elle s'est mis à appeler du monde au téléphone. Elle dit, écoute, là, il faut qu'on parte de là. Puis tout ce qu'on y disait, OK, ben ça va être l'heure du lunch. On va revenir après le lunch. Écoute, on va appeler la centrale. Ils vont peut-être pouvoir nous indiquer, nous donner plus d'informations. Non, attendez, ça sera pas bien long. Je vais vous trouver l'information. Là, juste attends que quelqu'un a décidé de venir contrôler notre identité, de nous aider d'un autre building, la gestion des bâtiments. Fait que là, elle dit, écoute, il arrive dans 5 minutes, je vais aller me faire un café, je reviens, écoute. C'est fini, on s'en va de là, c'est sûr et certain que là, c'est fait si on reste là.
Ah oui, mais votre cover était brûlé, là, mais au lance-flamme, là.
Ah oui, elle voulait vraiment juste nous aider, mais ça a tellement été complexe. D'essayer de nous aider qu'à un moment donné, les réponses, quand ils viennent pas facilement, tu cherches un contact, tu cherches un numéro de contrat. Si tu tombes sa personne qui sait qui contacter dans l'organisation, ben, elle va faire ses validations. Puis si ça ne fit pas, ça commence à être suspect, elle va appeler du renfort. Là.
Ouais, ben surtout quand c'est des éléments qui sont inattendus, puis c'est aussi ça qui est difficile dans la planification, parce que c'est rare qu'on est capable de mettre en œuvre un événement planifié pour que les gens soient justement, on soit attendu là, comme étant une situation normale. Tu parlais d'exterminateur, par exemple. Ben, c'est une situation qui est anormale, mais qui normalement devrait être soulevée par des gens qui ont contacté. Là, ça se passe pas de façon spontanée que des exterminateurs se présentent ou que des éléments comme ça. Là, fait qu'il y a un certain nombre de recherches aussi préalables.
Ça dépend toujours aussi du nombre de temps que tu as pour l'exercice. C'est comme quand on parlait du niveau de threat actor que tu veux simuler. T'entends que si t'es un étudiant que tu veux rentrer dans une place, ben t'auras pas de contexte préétabli. Quand t'as une semaine, t'as peut-être une chance de mettre une idée dans la tête des gens, dire ah, il y a peut-être un exterminateur qui va passer, mais rien d'officiel. Si tu ferais une grosse red team de quelques mois, ben là tu peux commencer à regarder justement, à pousser l'idée qu'on va venir à telle date, à confirmer puis valider. Tu peux le faire en plusieurs étapes avec un peu de vishing. Mais ça dépend toujours de où est-ce que tu veux aller avec ton scénario. Puis des fois, d'être trop préparé peut te tirer dans le pied. Je prends l'exemple encore de la madame. Là, on n'avait pas les bonnes informations. Ça nous a nuit parce qu'elle a cherché. Mais dans d'autres cas, on arrive, on vient pour rencontrer M. Bertrand. Bon, je ne connais pas de M. Bertrand. C'est correct. Puis, ils ne vont pas aller chercher plus loin parce qu'ils ne peuvent pas aller la contacter. Si j'aurais eu le bon nom, je m'en viens parler avec M. Beaulieu. Puis, M. Beaulieu, ben, la personne, elle le connaît. Ah oui, attends un peu, je vais l'appeler. Ben, là, tu es fait parce que le gars qui va venir te rencontrer, puis c'est fini. Là. Fait que des fois aussi, d'avoir la mauvaise information volontairement peut être utile. Je crois d'avoir les cartes prête dans ton arsenal puis décider selon l'interaction que tu as avec les gens, ça peut être utile. Des fois, tu vas volontairement dire de la mauvaise information aussi.
Ouais, ben, parce que dans ton cas de salle de serveur, ça t'a nuit de ne pas avoir l'information. Mais effectivement, c'est de savoir comment jauger. Puis c'est ça, quand je parlais de la préparation, ce qui est important, c'est justement que tu as les cartes dans ton jeu. Puis je pense que le terme que tu utilises, c'est vraiment de préparer tes cartes pour les capables de les jouer au moment que tu dois le faire, comme ceux qui sont habitués de jouer aux cartes. Les jeunes générations jouent moins aux cartes que des vieilles générations. Mais des vieilles générations qui ont joué aux cartes beaucoup, ben tu fais que les cartes t'as dans les mains. Fait que si t'as un bon jeu, tu t'es monté un bon jeu parce que tu t'es préparé, c'est plus facile de jouer puis de descendre puis de réussir à atteindre ton objectif que si t'es sous-préparé puis finalement t'as un jeu de merde parce que tu t'es pas bien préparé. Là.
J'avais pas pensé que ça allait trahir mon âge un peu, celle-là, mais c'est de même, surtout, tu sais... Après ça, c'est les principes d'ingénierie sociale qui embarquent le classique. Les gens, on a tendance à vouloir aider. Il y a personne qui se dit « Ah, il va usurper de ma confiance, il a pas le droit d'être là. » Tu arrives bien confiant avec ton collègue, avec un coffre à outils, tu dis « On s'en vient faire ça. » « Ah, je me suis pas fait aviser. » « Ah, ça arrive tout le temps, on se fait dire ça à journée longue. » « Ah, écoute, c'est correct, avez-vous besoin d'aide? » « Non, non, tout est beau. » « OK. » Un, tu l'as pas dérangé dans sa job, t'as été gentil, t'as fait des jokes. T'es pas là pour venir faire une bêtise ou t'arrives pas là agressivement. Là. Fait que c'est. Les gens ont tendance à t'ouvrir la porte puis juste vouloir t'aider, justement.
Ouais, pis c'est souvent ça. Pis ça, c'est des trucs de base en ingénierie sociale, là, de justement d'être accommodant, d'être humain, d'être ce genre de choses-là. Puis tu sais, j'ai pas plus tard que ce matin, j'ai arrivé un cas comme ça où. Dans ce cas-ci, j'étais pas dans un show, c'était un cas légitime dans ce cas-ci. Mais s'il avait été moindrement non légitime, ça aurait été tout autre parce que la chaîne des événements, il n'y a eu aucun contrôle, il n'y a rien. J'ai déposé mes affaires, j'ai fait le recon, j'ai tout vu mes affaires. Fait que dans ce cas-ci, ça aurait pu être un peu plus problématique dans ce cas-ci. Mais cela étant, d'être sympathique avec les pauvres gardiens qui se font tout le temps gueuler par du monde, d'être moindrement sympathique, ça va aider, ça aide énormément. Puis il y a des cas aussi, j'ai vu que là, on parle de semi entre les deux, où justement les adjointes administratives sont maltraitées. Ils sont tellement faciles à manipuler parce que justement, on leur donne un peu d'attention, un peu de choses, puis ça va, on tombe directement dedans. Là.
Ça, puis les personnes à courtoisie, c'est. Ils sont là pour aider, puis ils se font barouetter d'un bord puis de l'autre par des gens qui ont une mauvaise journée. Donc, quand tu arrives, puis tu es enfin là, le client qui est sympathique avec eux autres, ben, c'est sûr et certain qu'ils vont vouloir te donner la lune. Puis c'est triste à dire, mais il faut que les entreprises enlèvent ça à leurs employés pour qu'ils doivent devenir méchants, mais qu'ils doivent pas se sentir d'être gentils. T'sais, ils doivent avoir des mesures en place pour valider l'identité des gens, pour restreindre le déplacement de personnel non autorisé sur place, ou d'être en mesure de les identifier une fois qu'ils sont rentrés. Parce qu'il y a aussi ça, disons, tu rentres, on passe les gardes, on est rendu on-site, on a réussi à rentrer via dans une zone sécurisée. Souvent, une fois que tu es là, tu peux aller prendre ton lunch à un bureau, tu peux aller t'asseoir puis commencer à travailler sur un autre projet, tu peux aller te prendre un café dans leur machine. Il n'y a personne qui va te questionner bien souvent si tu n'as pas un processus d'avoir des line yards ou d'identification. Pourquoi? Parce que tu es rendu dans la zone sécurisée, ça veut dire que quelqu'un doit valider ton identité, donc tu es legit. Fait que pourquoi que moi j'irais en dehors de mes responsabilités pour aller challenger encore de nouveau, tu sais?
Ouais, puis c'est un peu comme ben ça, je aussi je dirais mon âge Fight Club, où justement là, puis c'est une très belle démonstration de psychologie humaine que là-dedans, entre autres quand il y a dans la séquence où il essaie de provoquer une bataille et les gens fuient. Donc naturellement les gens ne vont pas se mettre dans une situation où ils vont confronter parce que ça leur yaillit ça pour mourir. Fait qu'ils vont se mettre dans une situation où ils vont éviter. Fait que si on se met dans une situation où les gens évitent, justement un peu comme tu mentionnes, fait que les gens vont juste comme laisser aller, vous laisser circuler. Exception dans les environnements de très haute sécurité, où là, les gens sont habilités, ils doivent le faire, même sont imposés que ce soit cet élément-là. Fait, mais dans la plupart des institutions civiles dans lesquelles on est, ça n'existe littéralement pas, là.
Ça me fait penser, j'ai un de mes collègues, nous autres, il a fait une intrusion physique, puis ils sont rentrés par la porte arrière, ils voient la porte de la conciergerie, la porte de la conciergerie est barrée, mais ils veulent rentrer parce qu'ils savent qu'il y a des uniformes, puis il y a le petit chariot. Leur but, c'était de passer comme étant le concierge chez les étages, puis de looter du stock. Fait que là, ils disent, bon, la porte est là, c'est un cylindre relativement cheap, je peux le lockpick. Fait qu'il y en a un qui s'installe à genoux devant la porte, il met à lockpicker, il y en a un qui monte le guet. Mais sur le coin qui n'était pas surveillé, t'as un employé qui tourne, puis qui voit juste un bozo sur le coin, un bozo à genoux devant la porte en train de faire quelque chose. Je sais pas s'il a remarqué qu'il est en train de lockpicker. Puis sur le coup, t'as juste l'employé qui arrête, fiche sur place, regarde dans le vide 2 secondes, qu'est-ce que je fais là, moi, ici? Ah, je suis pas payé assez. Puis tu vois qu'il fait juste brasser un peu la tête puis repartir de l'autre bord. Aucune alerte. Aucune alerte, never. Le gars, il s'est dit, je suis pas assez payé pour aller me mettre là-dedans. Je m'en vais, j'ai rien vu, puis carry on my day. T'sais. Fait que, oui.
Oui, ça plaît ça, les gens. Là, y a ça, c'est un des aspects, là, mais c'est là, c'est pas tout le temps le cas. Des fois, on prend des allées, mais il arrive régulièrement que les gens se sentent pas vraiment interpellés par ce genre de choses-là. Justement, tout dépendant des genres de business, là, c'est ça, puis des gens des pôles de personnes, là, parce que des gens qui sont plus, là, tu parlais d'être plus social sur ces affaires-là, les gens qui vont être plus social, les autres vont se précipiter vers les gens pour leur parler, quitte juste à leur parler. Et les ceux qui le sont moins, dans lequel je fais partie, les gens vont regarder, est-ce que ça me tente de m'emmerder avec cette situation-là? Mais vraiment, comme ça, je fais comme, ah merde, je suis un problème, il y a plein de gens qui vont me parler. Ah, je fuis. Comme un chat, je vais jamais me cacher.
Fait que tu sais, c'était vraiment de tous les scénarios, puis je pense que c'est vraiment de jouer au caméléon aussi avec les gens que tu vas rencontrer. Si tu vois que la personne est beaucoup plus direct, beaucoup plus point par point, tu essaies de garder short and sweet point par point, puis tu vois que la personne est insécure, puis elle est toute gênée ou quoi que ce soit, ben tu essaies d'adapter sa mimique, puis parler de la même façon, ça les rassure énormément. Il y a une différence entre parler, je sais pas moi, quelqu'un de 35 ans, businessman qui est à son affaire, ou d'une madame dans 50-60 ans qu'elle a des photos de chat un peu partout sur son bureau. Tu vas pas l'aborder de la même façon, tu vas pas avoir les mêmes sentiments envers elle, de soulever les mêmes sentiments quand tu vas parler. Fait que je pense que tout ça est à prendre en considération quand tu fais l'attaque. Puis des fois, tu vas rentrer dans une place, tu vas te dire, ah, écoute, OK, on repart parce que le gars, il a commencé à être suspect. Il dit, il va falloir valider votre identité, là, revenez à 1 heure, puis tout ça. C'est, écoute, si je me repointe là, c'est sûr et certain que je suis brûlé, là. Puis des fois, ça peut être surprenant. On a été lunché, puis on est revenu. OK, on n'a pas passé proche du gars parce qu'on s'est dit, si on lui nous voit, il va, c'est fini. Fait qu'on a passé l'autre corridor. On a été en réception, on parle avec la réception, pas de problème, ils viennent nous ouvrir les portes. Puis le gars, il nous a donné des informations au préalable qu'on a pu, qu'on a noté comme, ah, il y a deux cafétérias en bas, normalement, les employés vont à telle place, l'autre est plus réservé pour ça. Du coup, je me dis, bon, c'est correct, tu sais, il nous donne l'information, on va voir qu'est-ce qu'on en fait, garde ça dans le fond de ta tête. Puis... Mais une fois qu'on est arrivé à la réception, là, on avait des gens qui n'étaient pas au courant de la place. Il dit, ah, qu'est-ce que vous venez faire ici? Ah, on s'est fait dire qu'il y avait deux cafétérias en bas qu'on devait venir valider. On a re-shooté les mêmes informations que le gars nous avait données. Donc, la personne nous a littéralement, même si elle était suspect, nous a donné l'information requise pour passer la deuxième personne. Puis là, on avait tellement d'informations internes que c'était sûr qu'on avait d'affaires là et qu'on était déjà venu. Donc là, on s'est fait ouvrir les portes. La petite madame est même venue nous montrer où est-ce que c'était. Puis on a dit, OK, bon, on va continuer notre job. Merci beaucoup. Est reparti parce qu'on avait ouais. On connaissait déjà la job.
Oui, mais ça, c'est important. Puis je vais encore travailler encore plus mon âge. Finalement, je fais ce que mon père disait quand j'étais adolescent, il y a fort longtemps. Il dit il faut maîtriser le vocabulaire. Puis c'est exactement ce que tu viens de mentionner là. Ou dans le fond, dans ce contexte-ci, maîtriser le vocabulaire de l'entreprise dans laquelle tu es. Il va t'aider justement à passer inaperçu parce que là, tu parles comme eux autres. Donc, tu es un membre de la tribu. Tu es un membre de la gang. Et quand tu es un membre de la gang, là, encore plus le seuil de scrupules et de vigilance va diminuer, là, mais de façon là, très, très importante. C'est très important de réussir à capter ces affaires-là vite parce que sinon, le mauvais vocabulaire va justement faire complètement l'inverse. Il va soulever les alarmes tout de suite, puis les gens vont devenir ultra vigilants. Et peut-être ouais. Trop, d'ailleurs.
C'est un gros show d'acteur, tu sais, comme qu'on le disait, là. Si t'arrives avec un langage tout soigné, hyper, tu sais, j'allais dire bourgeois, mais c'est pas tant ça, mais tu sais, vraiment de très classe, puis tu te fais passer pour un gars de la construction ou quelqu'un qui vient réparer les ascenseurs qui est à moitié tout sale. C'est pas tant l'environnement que tu vas avoir cette parler-là. Pareil, si tu parles comme un bûcheron puis que tu arrives en veston cravate, ça pourrait des fois passer, mais tu as pas mal plus de chances de te faire remarquer, du moins. T'sais. Fait que c'est adapté à ton environnement.
Effectivement, il faut vraiment lire son environnement. Y a-tu d'autres éléments? Parce que là, on a vraiment focusé sur le social engineering, parce que dans le fond, l'aspect physique n'est pas que social engineering non plus, même si ça en fait quand même une bonne partie.
Ben, pas tant. Te fondre en masse aussi, des fois. Autant que tu peux te faire passer comme un exterminateur que des fois, tu vas vouloir rentrer en veston cravate puis te faire passer parmi des employés. Je pense que tous les cas, les scénarios doivent être analysés. C'est ça pourquoi que la recon est si intéressante. Puis ça l'amène justement au côté réseau que tu peux te promener puis te brancher des appareils malicieux sur le réseau que tu vas pouvoir utiliser aussi dans une deuxième phase de Red Team où là, tu as réussi à avoir ton accès initial puis comment que tu agis une fois sur le réseau.
Oui, ben c'est ça, effectivement. Tu as glissé vers l'aspect plus réseau, plus conventionnel pour les gens en cyber, là, justement, des attaques de cette nature-là. Un exemple d'équipement que tu vas justement planter comme ça, puis comment tu vas l'utiliser un peu sans tomber dans le détail trop précis? Là.
Ben, t'as le classique, hein, le petit Raspberry Pi qui a une connexion GSM vers l'extérieur, comme ça, tu t'exfiles pas l'information sur le réseau. Vois-tu, dans le contexte d'exterminateur, on avait mis ça dans une grosse trappe gluante d'anti-ra, comme ça, était bien camouflé, apparaissait pas. OK, c'était louche parce que t'avais une trappe à ra branchée sur le réseau. Mais aux premières vues, ça sonnait pas d'alarme, tu sais. T'as ça, t'as souvent des clés USB qui va mettre des keyloggers puis qui va envoyer des pings de temps en temps une fois que le processus va être roulé. Des fois, ça va être une macro Excel que les gens vont avoir cliqué puis que le processus va être infecté puis que tu vas utiliser pour justement mettre tes points de persistance. Quand tu fais des red teams, tu vas souvent utiliser deux C2, des programmes de commande et contrôle à distance. Tu vas en avoir un qui va être pour toutes les communications court terme que tu vas utiliser pour ton day-to-day et que tu vas avoir deux, trois instances qui roulent en parallèle. Puis s'il y en a une qui brûle, c'est vers ça. Juste attends que la Blue Team se mette sur ton dos, puis elle t'aime plus. Puis qu'elle te blacklist de partout. Puis t'as ton Long Haul, que là, lui, c'est tu le mets et tu souhaites que tout le monde l'oublie. Il ping sur ton serveur peut-être une fois aux deux, trois jours, peut-être aux semaines, dépendamment de la longueur de l'exercice. Puis tu veux pas que personne y touche. Tu veux juste qu'ils viennent te poker de temps en temps. Puis comme ça, si tu perds tous tes accès, tu peux y dire, bah spawn-moi un autre de mes short hauls que j'ai remodifié. Puis on se revoit dans une semaine, mais qui pop. T'sais.
C'est effectivement très intéressant. Mais ça, c'est les cas un plus classiques. Là. Pour ceux qui ont écouté Monsieur Robot, il y a plusieurs de ces éléments-là, justement, qui sont très bien démontrés dans cette série-là. Et justement, quand tu arrives, justement, là, tu parles de mise en œuvre de l'attaque réseau. Parce que ça prend du temps de réussir parce que là, on pense que on attaque le site web puis on est dans les choses corporatives, ça prend plus de temps. Tu parlais aussi des macros dans Excel qui sont un très bon véhicule pour réussir à mettre son pied dans l'organisation. Heureusement ou malheureusement, tout dépendant comment on regarde ça. Là. En tout cas, Blue Team, sachez que les macros dans Excel, c'est à interdire à tout prix. C'est un des véhicules les plus toughs. Oui.
Mais ça va vite. C'est le monde, c'est à quel point qu'il réalise pas, c'est à quel point qu'une attaque peut aller vite. On dit, ça prend du temps. C'est pas l'attaque qui prend du temps, c'est toute la weaponization, tout le côté de militariser des objets simples. C'est ça qui prend du temps. Mais ça, t'es loin de l'entreprise, puis l'entreprise voit rien de ça. On s'entend qu'un envoi de courriel malicieux, si t'envoies ça à une centaine de personnes ou à une dizaine de personnes, puis ils se mettent à cliquer sur le lien, ben les creds partent. Ça part vite. Pourquoi? Parce que sur 100 personnes, tu vas peut-être en avoir 10 qui vont avoir vu le courriel, pris action, puis envoyé leur creds. Puis il y en a peut-être 4-5 qui peuvent être faits. Donc, si les 4-5 qui ont des moyens de persistance qui sont mis, puis qui sont mal détectés, c'est énorme. Puis ça se passe en dedans 5-10 minutes. Parce qu'on s'entend que le gars qui va lancer son attaque, il va être prêt, lui, il t'attend. Dès que le creds rentre, il y a le portail à côté, puis go, on l'essaye, puis tu sais, le but, c'est de rentrer. Parce qu'ils savent que la Blue Team va faire leur job, va resetter les mots de passe, va changer. Donc, c'est go, c'est maintenant, non?
Oui, puis c'est ça, puis c'est un point très important aussi à mentionner, parce que le but de Red Team, c'est de tester le Blue Team, puis sa vitesse et sa capacité d'intervention. Malheureusement, dans ma carrière, j'étais déçu en général, mais j'étais pas dans des endroits très matures. Mais c'est ça que les gens voient pas, parce que tu sais, j'ai pas vraiment fait de la réponse à incident aussi, puis là, dans le fond, c'est où le volet Red Team, puis mon expérience rentre en jeu. C'est que quand on se fait attaquer par un fichier Excel, d'ailleurs, qui fait une macro puis qui commence à avoir finalement des rançons logicielles dans ce cas-ci, c'est exactement la même manœuvre qu'un Red Team va faire. Fait que si nos systèmes sont pas là, et c'est là l'important, quand le fichier Excel a été exécuté, le Red Team, il rentre comme ça, comme le malveillant va rentrer à la même vitesse et va créer des dommages très importants dans l'organisation. Puis là, c'est dans les médias énormément. Au moment qu'on va diffuser ça, je pense qu'il va y en avoir eu probablement d'autres qui vont être sortis dans les médias, mais c'est quasi hebdomadaire qu'on a un cas majeur dans lequel on entend. Et c'est ça qui est important, c'est ça revient à quelle vitesse on est capable de mettre en œuvre pour ce genre de scénario-là. Là.
Puis la période temporelle est tellement quelque chose de subjectif à la personne qui va analyser. On s'entend que moi, si on me dit on t'a détecté, OK. Combien de temps? Ah, ben, le lendemain, on est arrivé et on avait dans nos logs. OK, fait que tu me dis qu'il y a 12 heures qui ont passé. Ah, c'est rapide pour nous autres. Avant, on était à 3 jours. Ouais, c'est parce qu'en 12 heures, j'ai le temps de ne plus être là et d'être rendu ailleurs, bien loin, puis d'avoir looté le stock. Mais pour eux autres, c'était bon. Pour d'autres clients, même 15 minutes, c'est trop. Parce que 15 minutes, si c'est des failles qui sont automatisables, ben, tu peux exfiltrer beaucoup de données. Donc, il y a beaucoup de choses à analyser quand tu deals avec du temporel. C'est pas tous les systèmes qui doivent avoir le même poids et la même métrique à ce niveau-là. Un poste de travail, exemple administrateur, tu exécutes 4-5 commandes que les administrateurs utilisent standard pour faire ta reconnaissance ou faire ton pivot, il n'y aura pas de problème si tu le fais dans la même journée. Mais des systèmes hautes sécurisés qu'il n'y a presque jamais aucune ligne de commande qui se fait rouler là-dessus, roule 5 commandes dans la même journée, tu vas te faire flaguer. Tu sais. T'es mieux désespacer dans le temps, comme une semaine, tu vas en rouler une, tu vas en rouler une autre pour réussir à compromettre le système derrière. Mais c'est toujours à prendre en considération.
Oui, c'est ça. Puis c'est toujours dans la base de scénario, le scénario réel. Puis ça va aussi avec la maturité de l'organisation. Puis les malveillants se sont adaptés. Là, c'est-à-dire, on le voit dans ce que le Red Team simule, ce que les malveillants en font. La vitesse auquel laquelle ils agissent, ben, c'est beaucoup modifié dans les dernières années. Où avant, c'était du smash and grab. Là, il rentrait, il détruisait tout, puis ça n'allait. À quel on voit de plus en plus où les délais entre la première intrusion et l'exécution du vraiment l'objectif, c'est-à-dire vraiment prendre son logiciel, est beaucoup plus long, peut prendre plusieurs semaines, si c'est pas des mois dans certains. Fait que même les criminels qui sont à l'argent sont beaucoup plus lents. Puis c'est là où je vais aller aussi, c'était tout le volet recon, parce que quand tu rentres, les malveillants font exactement la même chose. C'est tout le volet on parlait de recon dans l'épisode précédent, mais dans celui de cette salle-là aussi, une fois que tu es rentré, t'as une seconde phase de recon à exécuter quand même au nouveau réseau. Là.
Oui, c'est tout le temps la fameuse boucle, c'est que tu repars à ta recon et tout. Puis des fois, ça vaut la peine aussi de revenir un pas en arrière. J'avais une équipe qui travaillait avec nous autres à un moment donné qui était jamais sur une recon. Ça faisait déjà 2 semaines qu'ils essayaient d'avancer de l'avant. Ils ont tout épuisé. Ils n'avaient pas trouvé de threads. Ils disaient, OK, où est-ce qu'on pourrait trouver un autre point de pivot? Il nous faut un autre user qu'on serait en mesure d'obtenir. Puis, tu sais, je leur ai choisi, c'est correct, t'es rentré à l'interne. Fait que t'as accès à de l'information, t'as accès à plus d'usagers, t'as accès à plus de détails. Oui, mais on peut pas spray. On est à l'interne, ça va être détecté par la Blue Team à côté. J'ai dit, OK, pourquoi tu vas pas à l'externe? Ils ont des tonnes d'attaques. Change ton adresse IP avec des systèmes genre AWS qui font de la rotation d'IP. Puis spray de l'externe. Ouais, mais ils ont tout fait. C'est pas grave, tu vas pouvoir peut-être le réutiliser à l'interne. Des fois, de reculer un point en arrière, de voir qu'est-ce qui a été publié sur les médias sociaux, quoi que ce soit, comme les leaks passwords, te permettre de le réutiliser parce qu'ils n'utilisent peut-être pas les mêmes mots de passe ou peut-être que tu vas réaliser que le sysadmin, c'est un gros fan de Game of Thrones puis tu vas essayer les maisons de Game of Thrones, ses serveurs, puis ça va rentrer. Ça arrive très souvent, ça. Là.
C'est malheureusement un classique. Je ris parce que j'ai eu des cas similaires que ça, mais effectivement, c'est de se remettre et faire une deuxième phase de recon justement sur la base une fois que tu es rentré à l'intérieur. C'est aussi valide dans l'espace physique où des fois, ça peut être à plusieurs phases, c'est-à-dire que tu as du recon, mais qui sont dans la phase, quand même dans la phase physique, parce que l'information est cachée plus loin. Et justement, puis tu le mentionnais justement dans le fait que tu as de l'information que tu réutilises. Là, tu as fait un cas direct, mais tu as des cas plus long où tu obtiens de l'information en phase 1, puis coup, pouf, tu réapparais 3 mois plus tard avec la même information, puis celle-ci t'as servi et t'as amené plus loin. Mais d'un point de vue réseau, ça demande effectivement ce genre de choses-là. C'est justement le point de persistance, parce que tu en as parlé un peu, mais y a-t-il d'autres stratégies de persistance qui sont utilisées justement pour être capable de mener à terme l'exercice?
Bien, les persistances, ça va être au niveau des C2 ou de laisser des... je les appelle des mock-up files. Là. C'est exemple dans un share drive. Disons que tu as accès à un share, tu as plein de dossiers qui sont là, des docx, tout ça. Tu regardes les dernières dates, puis tu vas pogner les données plus récentes, puis tu vas les mettre dans un mode caché ou dans d'autres folders avec un lien vers ces fichiers-là qui va, en gros, ça va être juste un petit script qui va exécuter ton fichier d'origine, une mascarade. Le mot, c'est des dossiers en mascarade. Donc, le fichier, au final, l'usager va cliquer dessus, son Word document va avoir apparu, mais à chaque fois qu'il fait ça, il va peut-être avoir un C2 qui va partir ou une nouvelle connexion. Ça peut être une façon de regagner dans le futur des accès à l'interne.
C'est une très belle façon parce que ça contourne les ADR. Parce que les ADR, ils font exactement l'inverse de ça. Détecter le PowerShell après le Word, pas avant le Word. Je la trouve très bonne, celle-là.
Fait que, tu sais, c'est toujours une façon de contourner. Je veux dire, autre que des persistances sur des machines, d'aller changer les clés de registre ou de mettre de quoi qui va repopper et qui va être enregistré en startup, il n'y a pas 10 000 façons de faire. Tu veux que les users réexécutent ton payload ou d'avoir des creds pour t'authentifier sur un système, d'avoir des backdoors. Mais on s'entend que Red Team, personnellement, je suis pas trop pour d'ouvrir des backdoors chez les clients. J'aime mieux que ça soit organisé. Quitte au PDK, tu as une cellule blanche que lui, il va observer que oui, il y a une backdoor, oui, tu es capable de la mettre. Ben, mec, tu veuilles l'utiliser, tu me le diras, puis je te lancerai au lieu d'ouvrir une porte. T'sais. Donc, c'est toujours penser que oui, tu es là pour attaquer le client, mais tu veux pas le nuire non plus. Là. Tu veux pas être le responsable que les sysadmins arrêtent de dormir durant Noël.
Ouais, ben c'est ça. Puis ça, puis on va probablement en parler dans un prochain épisode. Tu as parlé de cellules blanches. C'est important parce que là, on a parlé vraiment des affaires plus fun. Mais organisationnellement parlant aussi, faut pas acheter de la business à terre. Faut pas. Il y a des limites à l'exécution du red team qui doivent être respectées et convenues avec le client. Et il faut avoir des crans d'arrêt. La White Cell est un très bon cran d'arrêt justement pour arrêter ou de faire une petite poussée qui normalement ne devrait pas être faite en temps réel. Tu parlais justement d'une backdoor qui est peut-être un peu trop loin.
Mais ça ramène tout à notre discussion sur les règles d'engagement qu'on a eues il y a quelques semaines, où c'est vraiment important de tout élaborer la structure avec le client, qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui n'est pas autorisé à faire. Parce que dans Red Team, tu peux virer vite à l'illégalité quand tu sors de tes champs. Puis des fois, tu vas accéder à des systèmes que vraiment sont dans le très sensible. Une virgule quelque part peut faire crasher un système financier ou une centrale ou quelque chose comme ça, dépendamment des clients que tu as. Donc, ça peut faire mal. Là. Puis c'est eux, l'impact de réputation vont l'avoir pareil si tu fais planter leur système en production. Là. Oui, c'est juste un exercice. Oui, c'était juste fun and giggles, mais t'as peut-être fait perdre de 2-3 millions parce que le serveur a été shut down pendant une heure. Là.
Ouais, c'est ça. Puis ça, c'est les aspects dangereux. Puis il faut être très prudent dans l'exécution, autant pour les red team internes qu'à contrat comme vous autres, là, de justement pas briser la business ou d'avoir le cran d'arrêt pour éviter de briser la business. Un peu comme dans le fond, puis je pense qu'on en a parlé un peu sur le fait que tu as ton sorti de prison, tu sais, d'une année, quand l'exécution va trop loin en physique, ben, tu sors la case, tu fais ben là, on arrête tout parce que ça va aller trop loin, parce que
la cellule blanche va se faire arrêter. La cellule blanche, elle est un peu comme justement la sortie de prison, l'alerte d'indemnisation, ou quand ça va trop loin, ben c'est la cellule blanche qui se tape pour dire écoute, on arrête, puis on prend ça en note, puis on va se focusser ailleurs. Là. Peut-être qu'il va être en mesure de te donner les accès, puis que tu ailles continuer l'exercice juste pour encore challenger la Blue Team. On s'entend, le but, c'est qu'eux autres te détectent.
Oui. Puis je pense qu'on n'a pas mentionné encore explicitement c'était quoi un white cell. Le white cell, c'est une personne qui connaît le contrat, connaît l'objectif, les règles d'engagement du red team, mais qui est avec le blue team, puis qui s'assure justement qu'on est dans une position pour pas briser la business, mais que justement ça serve le point de vue éducatif pour le blue team jusqu'à temps, puis de pouvoir qu'on aille jusque-là. Là.
C'est jamais non plus perdre son ego en red team. C'est souvent ça que j'ai remarqué avec beaucoup de gens dans la communauté où tu as toujours ton ego qui embarque. L'objectif, c'est que j'honne le client et que je réussisse à faire ça. Non, c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de faire un bon training à la Blue Team. C'est seulement ça que tu es payé. Fait que si tu fais des dégâts en l'entreprise, tu n'as jamais été utile à l'entreprise. Tu as causé plus de tort qu'avant ton arrivée. Fait que pourquoi que tu es venu là? Fait que vraiment, c'est un travail collaboratif avec eux autres. Puis, il faut pas se sentir insulté si le client veut pas aller tester certains scénarios, même si tu sais qu'ils sont sensibles. T'es mieux de le mettre dans le rapport puis d'insister avec eux puis de travailler avec eux pour faire les tests d'une autre façon que d'aller dire « Ah, moi, je lance ma commande puis on verra bien qu'est-ce qui arrive. » T'es mieux de te surveiller, ouais.
Ben, c'est parce que puis c'est là où les gens ont une confusion, puis je pense qu'elle est généralisée, puis c'est une des raisons pourquoi cette idée de cette série-là est née, c'est que du red team, c'est pas de l'offensif. De l'offensif pur, au sens pentest. Le but, c'est pas de briser le système. Il y a un but éducatif dans le red team qui est très spécifique. Puis d'ailleurs, c'est pour ça que le terme a été emprunté aux militaires, qui eux le font déjà d'ailleurs. C'est là d'où ça arrive. Fait que c'est vraiment. Puis il faut arrêter. Parce que c'est justement, puis l'ego embarque, des fois les gens mélangent, puis ça, c'est un problème en sécurité. Là.
Oui, oui, puis je pense que ça vient avec l'expérience à un moment donné où est-ce que tu viens peut-être y avoir un switch dans ta tête, dire je suis plus là pour aider que juste m'amuser à être domaine admin. C'est toujours le fun quand tu es rendu domaine admin puis que tu te promènes ces trucs. Tu sais que personne ne te détecte la façon que tu as monté tes choses. Mais au final, tu fais juste te flatter toi dans le sens du poil, peut-être pas personne. Fait que tu sais, t'as pas amélioré la situation. Quand il y en a qui te détectent, ben c'est cool. Au moins, tu sais que se sont améliorés jusqu'au point de te détecter ou tu sais que leurs défenses sont efficaces. Moi, rien ne me fait plus plaisir de dealer avec une entreprise que je sais qu'ils m'ont détecté après 5 minutes puis que tout a été burn. Au moins, je sais que mes informations sont safe dans cette situation-là. Tu sais.
Ben, c'est ça, c'est un peu ça l'objectif. Je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon de ce que ce volet-là qu'on voulait aborder. As-tu d'autres choses que tu voulais parler qu'on a omis de parler?
Non, pas spécifiquement, non. Je crois que ça couvre en effet la majorité du stock. On s'entend, le côté réseau, c'est souvent du long terme, c'est t'exécutes commande après commande, puis plus que t'en fais, plus que ça devient dangereux. Mais ça devient la même chose qu'un pentest où t'essaies de pas te faire voir puis que tu vas pas rouler des Nessus. Donc tu vas prendre vraiment juste le strict essentiel puis de vivre avec qu'est-ce que t'es capable de trouver sur le réseau. Là.
Super, je te remercie énormément. C'était encore très instructif, très intéressant et encore un peu plus drôle parce qu'on est un peu plus dans le concret dans ce cas-ci.
Ça me fait plaisir. Merci à toi.
Merci.